Bonjour David, bonjour à tous. Le président de la République a annoncé hier une hausse des salaires des enseignants. Déclaration loin de satisfaire leur syndicat. Le Toircé peut servir de réservoir d'eau potable, même pendant les sécheresses, selon le président du syndicat d'eau de la vallée du Touet. Montcoutant-sur-Sèvre accueille actuellement une jeune burkinabé qui permet d'entretenir le lien avec un pays soutenu depuis 25 ans maintenant. Le handball club de Mauléon organise demain son All-Star Game. Il traduit la bonne ambiance qui règne dans ce club à l'esprit familial. Quelques bandes de nuages dans notre ciel cet après-midi, mais rien de significatif. Voilà pour la météo. Emmanuel Macron a donc annoncé hier une hausse de salaire entre 100 et 230 euros net par mois pour tous les enseignants. Et ce, lors d'un déplacement sur le thème de l'école dans un collège de l'Hérault. Cette hausse inconditionnelle s'accompagnera d'une augmentation liée à de nouvelles missions basées sur le volontariat, a déclaré le chef de l'État. Au total, cette hausse pourra aller jusqu'à 500 euros par mois. Alors, qu'en pensent les syndicats enseignants? Écoutez ce qu'en dit Julie Coupry du SNUPP FSU des Deux-Sèvres, le syndicat des instituteurs et professeurs des écoles.
On prend acte, mais ce n'est pas suffisant. Ça ne permet pas de couvrir la baisse qui va de 15 à 25% du pouvoir d'achat depuis ces dernières années. Et puis, pour ce qui est des rémunérations contre nouvelles missions, ça c'est juste pas entendable. Les enseignants travaillent beaucoup et méritent d'avoir un salaire revalorisé à la hauteur de ce qu'ils font comme travail. Ça sous-entendrait qu'on n'en fait pas suffisamment, qu'on pourrait en faire encore plus, qu'on est déjà suffisamment payé. Alors c'est schizophrène comme discours, parce que quand ils en ont l'occasion, ils disent qu'en effet les enseignants ne sont pas assez payés par rapport au travail qu'ils font, sous-entendu, mais pour autant il faudrait quand même qu'on travaille encore plus pour gagner plus. Et non, ça c'est pas entendable, ça n'attire plus les vocations à l'enseignement. Et le ministère a du mal à faire le plein dans les concours. Ils essayent, pour pallier au manque d'enseignants qu'ils ont eux-mêmes créés, hein, de recruter des contractuels qu'ils n'arrivent même pas à recruter. Le métier est difficile et il mérite un salaire à la hauteur de tous les enjeux que notre métier, auquel notre métier répond.
Julie Coupry du SNUPP FSU des Deux-Sèvres. Voilà pour le premier degré. Dans le second aussi, les annonces du président de la République sont loin de satisfaire. Écoutez, Julie Desplans, coprésidente de SNES FSU, également joint par Fabien Gazot.
C'est un véritable mépris de la réalité des conditions de travail des personnels, dont fait preuve encore une fois le président. C'est un entêtement également, puisque l'ensemble des organisations syndicales sont opposées et l'ont fait savoir à de nombreuses reprises au pacte qu'il propose. Toutes les enquêtes montrent que les enseignants travaillent en moyenne bien plus de 43 heures par semaine et que tout ce qu'ils proposent là, c'est travailler plus, encore une fois, et travailler plus, c'est pas une revalorisation. Donc ça va être un accroissement de la charge de travail encore des enseignants. Ça ne va pas non plus permettre de pouvoir rendre le métier plus attractif, ce dont on a aussi également fortement besoin. Et ça ne rattrape absolument pas, ça ne compense absolument pas la perte de 15 à 25% de ces dernières années concernant les salaires. C'est vraiment par le dégel du point d'indice, par une augmentation du point d'indice sans contrepartie, qu'on pourra revaloriser les salaires des enseignants.
Julie Desplans, co-secrétaire départementale du SNES FSU, fait également remarquer que rien n'est dit concernant les collèges assistants d'éducation et AESH, les CPE et les psychologues de l'éducation nationale. Nouvelle journée d'action hier contre la réforme des retraites. Nous relations ici même le rassemblement tôt le matin d'une vingtaine de membres de l'intersyndicale bressuraise en gare de Bressuire, empêchant le TER Thouars-Tours de poursuivre sa route. Action similaire en fin de matinée à Thouars avec une quarantaine de manifestants devant la gare. À Niort, quelques 250 personnes ont envahi en fin de matinée les voies ferrées durant 2 heures en fin de matinée aussi hier, interrompant toute circulation des trains. L'intersyndicale attend désormais le symbolique 1er mai pour des manifestations qui s'annoncent d'envergure. Cela pourrait avoir une incidence sur les urgences de Fay-la-Besse. Faute de médecins, les urgences de l'hôpital de Fontenay-le-Comte seront fermées 3 jours à compter de ce vendredi, a annoncé hier matin la direction du centre hospitalier vendéen. La semaine dernière, le taux d'incidence Covid-19 a augmenté en Nouvelle-Aquitaine après 3 semaines de relative stabilité et la hausse du taux de positivité se poursuit, plus 3,7 points en une semaine. Le nombre d'hospitalisations en secteur convo-solel et le nombre de décès en milieu hospitalier tendent aussi à augmenter par rapport à la semaine précédente. Le nombre d'hospitalisations en soins critiques reste en revanche stable. Le Toircé peut servir de réservoir d'eau potable même pendant les sécheresses. Le plan d'eau présenté par le président de la République a pour objectif de maintenir l'accès à l'eau à tous en incitant également à des économies. On parle donc d'un tarif social à moindre coût, mais qui augmenterait avec la consommation. Ce principe ne séduit pas le syndicat d'eau de la vallée du Touet, le SEVT, qui dessert 20 000 abonnés dans 29 communes du Toircé à la Gâtine, comme l'explique son président Bernard Gaufrotteau au micro de notre correspondant en Toircé, Dominique Hérault.
Nous, SEVT, on n'a pas souhaité pour le moment l'appliquer. J'estime qu'on joue déjà le jeu indirectement par le biais du prix de l'abonnement. Pour un abonné domestique, il est de 40 euros par an. Les autres voisins syndicats, c'est quasiment le double. Donc, ça rentre déjà dans le critère du prix social. Parce qu'après, ce qui fait la différence, bien sûr, c'est la consommation. Une personne qui va faire attention à sa consommation d'eau potable, il aura une facture qui sera pas très élevée. Moi, personnellement, ce que je souhaitais, tant que je serai élu jusqu'en 2026, sur ce mandat-là, sauf si on m'y oblige, je n'augmenterai pas le prix de l'abonnement pour ne pas pénaliser les personnes à faible revenu ou les personnes seules.
C'est clair et ça coule de source, si l'on peut dire. Pourtant, à propos de tarifs, des médias nationaux ont cru flairer un coût excessif en zoomant sur une augmentation de 11% du prix. En réalité, la majoration s'est limitée à 22 euros sur un an sur 20 mètres cubes pour une famille de 4 personnes, par exemple, soit 2 euros par mois. En clair, le scoop a fait flop. Reste maintenant l'épineuse question des sécheresses à répétition qu'on nous annonce. Bernard Gaufrotteau.
On a de l'eau dans le Toircé en quantité très importante. Par contre, on a de l'eau qui est dégradée par la présence de nitrates. Et notre usine de dénitrification qui est sur la commune de Plaine-les-Vallées traite tous les nitrates. Je répète, le Toircé, c'est un des territoires des départements des Deux-Sèvres où il pleut le moins. Par contre, on a de l'eau en abondance. Ce sont des nappes libres qui sont Spadjeux et Saint-Jean-de-Marne. On a des forages très captifs. L'année dernière, malgré la sécheresse qu'on a tous vécue, nos nappes, elles ont baissé environ un bon mètre. C'est tout. On a vraiment de l'eau.
L'année 2023 sera celle de l'ouverture d'un vaste chantier de 6 millions d'euros. Il s'agit de faire courir une canalisation depuis le Toircé vers Assé-les-Jumeaux et le bassin de Seneuil près de Partenay, soit 22 kilomètres. Le principe est de sécuriser l'approvisionnement du nord vers le sud et réciproquement. Ensuite, cette canalisation pourra poursuivre vers le barrage du Sébron, puis vers le sud, le barrage de la Touche Poupard et Niort. Cette interconnexion pourrait être le gage d'un approvisionnement sécurisé sur le plan départemental. Mais avant d'en arriver là, il pourrait s'écouler encore un peu d'eau sous les ponts. Reportage signé Dominique Hérault. Mon Coutan sans frontières a tenu son assemblée générale mardi soir, la 25e pour cette association qui entretient des relations étroites avec le Burkina Faso, un pays qui a décrété cette semaine la mobilisation générale contre les violences djihadistes récurrentes et particulièrement dans le nord à la frontière avec le Mali. Mais les actions se poursuivent car MSF a toujours œuvré pour un développement économique de l'intérieur à travers notamment la caisse de microcrédit. Vanessa Pinault, coprésidente de l'association.
L'objectif de Mon Coutan sans frontières, c'est de continuer à soutenir les populations rurales les plus pauvres au Burkina Faso à travers le microcrédit. Donc on finance la création d'agences dans la boucle du Mouhoun. Donc on est à 8 agences aujourd'hui avec 35 salariés. Et on continue aussi la rénovation d'entrepôts pour stocker les céréales qui permet de faire de la sécurité alimentaire.
La caisse de microcrédit, c'est extrêmement important parce que c'était pas forcément dans la culture locale que d'avoir un petit peu d'argent pour investir. Et ça a permis de développer des projets agricoles, en élevage notamment.
Oui, c'est ça, en élevage et puis aussi au niveau des activités génératrices de revenus pour les petits commerces. Donc des personnes qui n'ont pas accès au crédit classique. Donc ça permet de soutenir les plus pauvres dans leur développement économique.
Depuis quelques années, l'insécurité qui règne au Burkina Faso a empêché Mon Coutan sans frontières d'envoyer une délégation sur place. Le lien est tout de même maintenu grâce à Justin Banaon, le relais sur le pays, dans ce pays. Et la présence de Laurence Bonzi pour un service civique de 6 mois à Mon Coutan sur Sèvre est aussi là pour entretenir cette proximité, une des priorités de l'association et de l'autre coprésidente. La jeune burkinabé de 24 ans intervient spécifiquement sur la correspondance scolaire, l'autre point donc de l'association, autre priorité de la SOS. 11 écoles et collèges du Mont Coutanté correspondent ainsi avec des camarades africains dans la région de Boromo qui reçoit beaucoup de déplacés fuyant les djihadistes.
La correspondance scolaire, c'est aussi permettre aux élèves de s'ouvrir à une culture. Et du coup, effectivement, il faut renforcer ce lien, surtout actuellement. Et c'est vrai que ça permet de découvrir un pays, c'est faire appel à une solidarité aussi. Et pour les élèves, c'est important de continuer à avoir ce lien-là.
Alors Laurence, vous intervenez depuis le mois de janvier dans les écoles, une dizaine d'écoles du Mont-Coutantais. Comment ça se passe très simplement avec les élèves?
Ça se passe bien, j'organise des ateliers de danse, de cuisine et j'ai fait un diaporama où je parle un peu du Burkina.
La situation elle est compliquée au Burkina en ce moment. Boromo n'est pas directement impacté, il y a beaucoup de Burkinabés qui se sont déplacés vers la région où c'est plus calme, mais ça a des impacts. Hein.
Oui, ça a vraiment beaucoup d'impact parce que les déplacés, ils habitent vraiment dans la boucle du Mouhoun, plus principalement à Boromo aussi.
Mont-Coutant sans frontières est donc attentif à ce qui se passe au Burkina Faso, mais poursuit ses activités en France. Prochain rendez-vous sur l'agenda, la course d'orientation, elle aura lieu le 14 mai et partira de Pescalis. Le sport, entre guillemets, le club de hand de Mauléon organise son All-Star Game demain samedi. Les glorieux anciens du club affronteront les joueurs de l'équipe Fagnon dans le match des légendes. Vous aurez saisi une forme de dérision dans les intitulés pour une journée qui vise avant tout à réunir ceux qui font le présent et ceux qui ont fait le passé du club. Le programme du All-Star Game, dont ce sera la deuxième édition, avec la secrétaire du club, Laetitia Clément.
C'est vrai que le handball club de Mauléon, on est plutôt un club familial où il y a une très bonne ambiance. Donc c'est vrai que c'était un petit clin d'œil, comme vous dites, à la NBA. Et c'est vrai qu'on a voulu en fait partir de l'idée de se faire rencontrer l'équipe senior masculine actuelle contre l'équipe senior qui date un petit peu de quelques années maintenant. Et c'était voilà, un petit challenge qu'on s'était mis et on est parti de cette idée-là, d'un match des légendes, comme on dit. Et on peut avoir des surprises parce que sur la première édition, c'est les anciens qui ont gagné. Donc, donc voilà, c'est plutôt sympathique. Le tournoi est ouvert à tout le monde, que ce soit jeune, plus vieux, qu'on soit débutant ou confirmé au handball, c'est ouvert à tout le monde. On a le droit de venir essayer le handball sur cet après-midi-là et puis rencontrer d'autres joueurs qui sont un peu plus qualifiés. Et puis c'est un tournoi familial toute l'après-midi, intergénérationnel.
Le tournoi de l'après-midi, vous l'avez entendu, est donc ouvert à tous à partir de 13h demain samedi. S'en suivra le match des légendes à 20h pour le All-Star Game du handball de Mauléon. Tout cela se déroule à la salle Pierre Martin. La soirée se terminera en musique. Tenez, on reste à Mauléon avec une date à retenir également, le samedi 10 juin. Ce jour-là, à 16h45, sera en effet inauguré le terrain synthétique. En rappel, ce dimanche, le Rotary Club de Bressure organise une course de canard, le Duck Race, sur la Sèvre à la Morinière de Montcoutant-sur-Sèvre. Chaque petit canard jaune en plastique numéroté est vendu 5€ au profit de la recherche sur les cancers pédiatriques. Ces milliers de canards descendront ainsi la rivière à partir de 15h et le propriétaire, entre guillemets, du premier gagnera ni plus ni moins qu'une voiture. Et bien d'autres lots d'ailleurs seront aussi mis en jeu. En parallèle, de nombreuses animations sont aussi prévues.